I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. Boop-boop-be-doo.
Page à page, l'émission du livre, proposée et présentée par Claire Ambille.
Adiciats et bienvenue dans votre émission Page à Page sur Radio Occitanie, où nous nous retrouvons comme chaque jeudi de 9h30 à 10h. Aujourd'hui, je reçois Bénédicte Diérix. Bonjour Bénédicte.
Adiciats à tous.
Et voilà, Bénédicte qui était venue nous parler d'un livre qu'elle avait bien aimé au mois de décembre dernier, un livre d'Yves Salling. Et aujourd'hui, elle va venir nous parler d'un livre de Jacques Sira. Cyclonomade, dont on parlera dans un petit instant après les petites infos habituelles. Je vais commencer par l'heure du conte à la médiathèque que vous connaissez bien, tous les mercredis à 11h pour les enfants de 2 ans à 4 ans et à 15h pour les plus grands à partir de 5 ans. L'accès libre, sans inscription, c'est au rez-de-jardin et c'est à la médiathèque José Cabanis. Un numéro de téléphone pour tout renseignement, 05 62 27 40 00. Également à la médiathèque José Cabanis, samedi 4 février, ce samedi, c'est-à-dire un conte dans le noir intitulé « L'arbre du désert ». C'est un spectacle écrit et conté par Hamid Berriouni et mis en musique par Pierre Blanchu. C'est à 16h au Grand Auditorium, donc à la médiathèque. Et je vous donne... Donc le spectacle est donc dans le noir. Il est pour un public à partir de 10 ans. Donc n'amenez pas vos petits bouts de chou, ils s'ennuieraient certainement. C'est pour les un peu plus grands. Et l'entrée est bien sûr libre et gratuite. Je vous donne le numéro de téléphone pour tout renseignement, 05 62 27 40 00. C'est le même que pour les comptes, bien entendu, vous l'avez compris. Ensuite, toujours les marchands d'histoire qui vont de bibliothèque en bibliothèque depuis le mois d'octobre et jusqu'au mois de mai seront le samedi 11 février à la bibliothèque de Rangueil qui est située 19 rue Claude Forbin. Et avec, vous retrouverez la conteuse Colette Minier qui vous fera découvrir un objet pour la chasse au trésor. Donc la durée de ce petit conte est de 1 heure. C'est pour les enfants à partir de 7 ans. L'entrée est libre et gratuite, bien sûr, mais une inscription est souhaitée afin de prévoir le nombre d'enfants qui sera donc le samedi 11 février. Et je ne vous ai pas dit l'heure, je crois, c'est à 11h. Et donc l'inscription sera le numéro de téléphone, voilà, 05 61 52 31 40, 05 61 52 31 40, à la bibliothèque donc de Rangueil, 19 rue Claude Forbin. Voilà, ça c'était pour les informations donc de la médiathèque. Ensuite, j'ai une petite info concernant le café de philosophie. Que vous avez l'habitude, on a l'habitude de l'annoncer. Donc le deuxième jeudi et le quatrième jeudi de chaque mois. Le deuxième jeudi, c'est un thème qui est proposé en avance, et le quatrième jeudi, c'est un thème qui est choisi sur place, donc au café de l'Esquille. Donc là, c'est le jeudi 9 février, donc c'est un deuxième jeudi. Donc le thème sera choisi à l'avance. Je vais vous dire lequel c'est. Donc c'est au café de l'Esquille, toujours pareil, qui se situe 63 rue du Thor. Et c'est à 19h30, avec la fin du débat prévue vers 21h30, pardon. Et alors le thème de ce jeudi 9 février, c'est « La violence est-elle innée ou acquise ? Les faits d'actualité témoignent de violences juvéniles. Les statistiques rendent compte d'une société moins civile. Les assertions accusent le niveau de vie et où ?» l'éducation. Cependant, le philosophe s'interroge, la violence est-elle atavisme ou culture ? Donc, pour débattre de ce sujet fort intéressant, donc je vous convie donc le jeudi 9 février à 19h30 au café de l'Esquille. Le numéro de téléphone, c'est le 05 61 23 42 46. Et pour vous dire que là, voilà, la présidence du débat et la reformulation sera assurée par Laurence Dupont et l'introduction et la synthèse par Jean-Philippe Blanchard, qui est l'organisateur donc de ce café de philosophie. Donc c'est ouvert à tous, bien sûr, et c'est juste les consommations, tapas et assiettes qui sont au tarif habituel dans ce café de l'Esquille. Ensuite, au Salon Priva. Alors au mois de janvier, il n'y avait pas eu de venue d'auteur au Salon Priva, mais il se rattrape en février parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Alors d'abord, mardi 7 février, le Salon Priva 14 rue des Arts accueillera Serge Tisseron pour son roman « Vérité et mensonges de nos émotions » aux éditions Albin Michel. Alors, comme vous l'avez compris au titre, l'auteur est psychanalyste et psychiatre, et il a écrit déjà de nombreux ouvrages. Ici, il s'interroge sur le pouvoir de nos émotions. Parfois, elles sont tyranniques, parfois, souvent, elles sont cachées également, et elles décident de notre vie et se transmettent de génération en génération. Mais dans ce livre, l'auteur se pose la question « Et si elles nous trompaient ?» Donc, venez rejoindre cet auteur, donc Serge Tisseron, le mardi 7 février à 18h au Salon Priva 14 rue des Arts, afin d'écouter ce qu'il a à dire sur ce livre. Donc 05 61 12 64 34 pour tout renseignement supplémentaire. Également au Salon Priva, le lendemain, le mercredi 8 février à 18h. Cette fois-ci, c'est avec une dame que nous avons rendez-vous, qui est Bernadette Pécassou-Camebrac, pour son roman « L'impératrice des roses » aux éditions Flammarion. Alors, on la connaît parce qu'elle avait écrit « La belle chocolatière ». Et donc, l'auteur revient avec un nouveau personnage au destin émouvant. C'est Alba, qui est née de père inconnu et que l'on suit des Pyrénées à Paris. Donc, c'est une très belle histoire à venir découvrir. Donc, le mercredi 8 février à 18h au Salon Priva, 14 rue des Arts. Ensuite, je vous convie également le jeudi 9. Comme je vous l'ai dit, le Salon Priva, là, il se rattrape aisément au mois de février. Donc, jeudi 9 février à 18h, toujours au Salon Priva, rencontre avec Christian Coulon pour son livre « Festin gascon » aux éditions Confluence. Alors, l'auteur a déjà écrit deux ouvrages consacrés à son goût généreux pour la cuisine. Et dans ce récit, eau en saveur de 9 festins, il nous convie à une table où il fait bon se nourrir. Donc à venir déguster sans modération, jeudi 9 février à 18h au Salon Priva. Voilà. Je terminerai par la petite info encore, envie d'écrire un roman, une nouvelle, une pièce de théâtre ou de la poésie. Venez rejoindre Muriel Romana, qui anime au Salon Priva également, 14 rue des Arts toujours, un atelier d'écriture intitulé Porte-plume et qui a lieu le lundi de 16h30 à 18h30. Donc un numéro de téléphone pour vous inscrire si vous avez envie d'écrire, 05 62 18 95 10, 05 62 18 95 10. Voilà.
Page à page, Claire Ambille.
Donc, je me tourne de nouveau vers Bénédicte pour que nous présentions ensemble ce magnifique livre, hein, un livre de 240 pages, donc c'est assez colossal comme livre.
Oui, puis des grandes pages.
En plus, c'est des grandes pages, oui, voilà, 240 grandes pages. Ouais. Et avec 410 photos, c'est énorme aussi.
Oui, mais qui illustrent bien, elles sont assez adéquates, les photos. Ça vous fait effectivement voyager, comme le livre l'explique, en fait. Donc
on voyage en même temps que Jacques Syrah.
Oui, et hein, puis un très beau livre, justement, pour ce périple de 7 ans en vélo à travers le monde.
Oui, c'est assez original, hein, je trouve. Donc, on va dire le titre. Donc, c'est Cyclo Nomade de Jacques Syrah aux éditions du Rouergue. Alors, la collection, ça illustre bien. C'est la collection Aventure. Et puis, le genre, on dit que c'est un beau livre. Et puis, c'est nature, quoi. Un beau livre de nature, puisque, bon, ben, il y a beaucoup de pays qui sont cités.
Oui, c'est sûr. Mais après, bon, c'est de nature, mais c'est surtout plutôt d'aventure, de sa propre aventure. Donc, à travers tous ces pays. Il faut savoir aussi que c'est la première fois, il l'explique, hein, qu'il part au-delà des frontières européennes quand il s'engage pour ce périple de 7 ans. Donc pour une première aventure, elle est assez conséquente. Hein. C'est pas une aventure de 3 semaines ou de voyage
voilà,
organisé.
Oui, voilà, c'est pas un petit voyage.
Donc il part en vélo, effectivement, parcourir le monde entier pendant plus de 7 ans, en fait, puisque la fin ne situe pas vraiment un retour en France non plus.
Ah oui, donc il est peut-être resté sur place, ça ne dit pas.
Il faudrait le contacter, savoir un petit peu ce qui s'est passé par la suite. Mais son aventure se finit en 2005 aussi, hein, donc c'est très récent.
Ah oui, 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 tout à fait. Bon, il est peut-être rentré quand même pour éditer le livre déjà.
Ah, ma foi.
C'est vu que, voilà, aux éditions du Rouergue, qui se situe donc à Rodez, quoi. Mais voilà. Donc l'auteur, on peut peut-être le présenter un peu. Donc c'est Jacques Syrah, qui est originaire de pas loin, de Valence d'Agen, mais qui a passé toute son enfance dans le Gers, ce n'est pas loin non plus d'ailleurs. Et puis après, il a fait des études plutôt de droit, de administrative, etc. Et il est parti à Paris, dans la région parisienne, pour faire postier, travailler dans, donc vraiment un métier assez plutôt sédentaire et plutôt fonctionnaire, quoi, plutôt sérieux.
Il était fonctionnaire, c'est ça.
Il était fonctionnaire.
C'est ça qui fait le déclic aussi, il l'explique justement, c'est cette espèce de peur de pouvoir prédire sa vie prévoir sa vie pour les 30 prochaines années, quoi.
Oui, voilà, il n'y avait pas de surprise, quoi, je veux dire. Voilà. Bon, il est quand même redescendu à Moissac, justement, c'est rigolo, on en parlait tout à l'heure.
Oui.
Moissac, voilà, il est revenu donc à Moissac pour continuer son métier de fonctionnaire, et puis un jour...
Un jour, on pourrait presque dire il a pété les plombs.
Voilà, dit comme ça, ça illustre bien. Bon, il a avant de faire ce voyage de 7 ans à vélo, il a fait d'abord un tour d'Europe en courant, ce qui n'est pas banal non plus.
Mais c'est plutôt ça, en fait, c'est au préalable, si tu veux, qu'il a vraiment eu son déclic. C'est un jour, cette peur de pouvoir envisager sa vie pour les 30 prochaines années à venir avec un horaire...
La pointeuse.
Voilà, donc savoir que 5 jours par semaine, il se lèverait à telle heure, qu'il ferait les mêmes tâches chaque jour de sa vie pendant 30 ans pour prévoir quoi ? Sa retraite. Et en fait, à un moment donné, il a dit bon, mais tout ça, c'est pas possible, quoi. Moi, je suis pas heureux, etc. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il a prévu ce premier voyage de course à travers l'Europe. Donc,
en courant.
Ouais. Il a tracé son périple à travers donc différentes villes qui traversent, je pense, 32 pays européens, hein, donc l'Europe géographique. Hein, pas économique.
Oui.
Et donc, ce voyage était prévu pour un an et demi, ce qu'il a fait. Donc, il est parti en courant à travers l'Europe. Et puis, à son retour, il a pris vraiment une grosse déprime, en fait. Donc, le retour à la vie sédentaire l'a vraiment opprimé.
Parce qu'il est revenu à son travail. Il avait pris un an et demi, en fait, de disposition personnelle. Et puis, il est revenu après à son métier de fonctionnaire. Oui, donc ça a dû être...
Enfin, il n'est pas précisé s'il revient à son métier de fonctionnaire, mais il précise qu'effectivement, il revient ici.
Sédentaire, quoi.
Tout à fait. J'imagine qu'il reprend un métier pour subvenir à ses besoins, simplement.
Oui.
Et il rentre dans une profonde déprime par rapport à ça. Et on va dire que à ce moment-là, il se rend compte qu'il peut plus du tout envisager sa vie de cette manière-là, quoi. Disons qu'il se rend bien compte que ça le rend pas heureux, qu'il faut qu'il reparte.
Et puis d'avoir vécu le voyage pendant un an et demi, j'imagine que ça doit donner une certaine habitude, une certaine liberté, et de revenir à une vie sédentaire, on doit un peu se cogner la tête contre les murs, hein.
Moi, je pense que ça dépend effectivement des gens. Lui, ça l'a ouvert vraiment à d'autres aventures, à d'autres horizons. Il ne voulait pas retourner à cette vie prévue qu'il avait au préalable. Bon, d'autres personnes peut-être pourraient, après une aventure pareille, décider que justement ils préfèrent.
Ils sont aussi bien chez eux,
Mais donc, disons que lui, il était vraiment piqué par cette piqûre du voyage, on va dire. Et il a donc, dans un second temps, décidé de partir à vélo cette fois-ci, donc pour une question de facilité, d'autonomie, parce que la course à pied, bon, mais ça limite.
Il est sportif, faut le dire. Hein, c'est un grand sportif, qui a fait du football, enfin, qui a fait pas mal de choses, mais heureusement, parce que bon, à pied et à vélo, c'est quand même assez physique, hein.
Mais après, il explique quand même qu'il n'avait pas d'entraînement particulier, quoi. Donc, il est parti. Effectivement, il a une activité sportive, on va dire peut-être quotidienne régulière. C'est même pas forcément quotidienne, mais c'est pas non plus un grand sportif, quelqu'un qui s'entraîne 3 heures par jour avec une rigueur incroyable, etc. Non, c'est vraiment moi je décide de partir, je pense que tout le monde peut le faire. Effectivement, il faut un minimum d'entraînement, mais d'un autre côté, s'il part pendant 7 ans voyager en vélo, l'entraînement il vient au fur et à mesure.
Oui, c'est en faisant du vélo
Et donc dans ce second temps, il décide donc de reprévoir un voyage, cette fois à travers le monde et en vélo. Et il décide de partir pour 3 ans.
Donc le double de temps du Tour d'Europe.
Voilà.
C'était 1 an et demi.
Il se met d'autres projets en tête, hein, notamment il travaille avec Enfants du Monde et avec certaines ONG, donc il va croiser sur son passage. Mmh. Il décide d'envoyer des comptes rendus de son voyage, etc., etc. Et donc il prévoit ce voyage pour 3 ans. Et au final, en fait, ça dure beaucoup plus longtemps que 3 ans, puisque...
Oui, le monde est quand même assez vaste.
Voilà. Hein, donc, bon, et puis au fil de rencontres, surtout, il se laisse porter par la vie.
Il peut rester plus longtemps dans certains pays, parce qu'il a rencontré des gens, ou qu'il a des choses à vivre à cet endroit-là.
Et puis c'est ça qu'il raconte dans son bouquin, effectivement, il raconte ses
aventures, ses rencontres.
Il raconte aussi sa perception du monde à travers ses pays et ses cultures, donc il explique son aventure, on va dire personnel au point de vue sentimental, ce qu'il y découvre, ce qu'il découvre sur lui-même, parce qu'effectivement c'est un voyage pareil, et se confronter à autant de cultures différentes permet de de faire une réintrospection sur soi-même.
Sur soi-même, oui. Je pense que ça amène une certaine tolérance, hein, au final, une certaine ouverture d'esprit, on va dire.
Je pense qu'il faut, hein. Sinon, il revient vite fait dans son rythme préétabli. Mais
tout à fait.
S'il est prêt à effectivement prendre le quotidien au fur et à mesure et jour après jour, ça demande une ouverture, effectivement. Mais un livre magnifique, hein, sur ce périple, c'est évident, qui raconte avec beaucoup d'émotion un voyage.
Donc il y a chaque pays qui sont décrits, ou comment ça se formule?
Oui, c'est un récit chronologique. Donc effectivement, il parle
à la date de départ, donc 7 ans au fil des 7 années.
Tout à fait, oui. Et puis donc il explique son périple à travers les différents pays traversés. Il raconte pas tout, hein, mais on va dire il raconte les points intéressants, les points forts de son voyage. On peut pas raconter 7 ans en un bouquin.
Même de 240 pages. Même avec des grandes pages.
Voilà. Donc il décide ce qu'il raconte, mais je pense qu'il raconte juste les moments forts dans les pays. Il y a des pays qui sont survolés, où il dit je traverse tel pays, anecdote particulière. Et puis il y a d'autres pays où il s'arrête vraiment donc sur des expériences qui l'ont plus marqué, du vécu, des rencontres, et puis toujours le fil conducteur de son voyage en solitaire, puis qui est très intéressant.
Ah oui, parce que c'est vrai, il est parti tout seul sur son vélo, il a pris personne sur son porte-bagages.
Et puis donc des traversées de déserts, des grandes étendues ça pendant des centaines de kilomètres, voire parfois.
Il a fait l'Afrique, bien sûr, il a fait le Brésil aussi.
Non, il n'est pas passé par l'Afrique, justement. En fait, il est passé, situer un peu son périple, est passé sur le Moyen-Orient, mais pas l'Afrique, on va dire le continent africain. Donc il part de Paris, il traverse l'Europe, il va vers les pays de l'Est, il passe par le Moyen-Orient, donc Turquie, je pense qu'il passe par le Liban aussi, l'Iran, etc. Ouais. Hop, il remonte du côté de l'Inde, il traverse le Laos, il arrive jusqu'au Vietnam, il remonte vers la Chine, et puis en fait de là, il repart vers le continent américain. Il arrive sur la côte ouest des États-Unis. C'est ça, il arrive à Los Angeles, je pense, et puis il descend sur le Mexique, hop, l'Amérique latine. Il fait quand même un tour en Haïti aussi, et puis en Amérique latine, en fait, c'est là où il reste le plus longtemps.
Ah, d'accord.
Les 2 premières années environ de son voyage, donc c'est le périple sur le continent américain. Et puis en Amérique latine, il reste 4-5 ans. Toute la fin de son voyage, c'est l'Amérique latine, en fait.
D'accord. Il fait tous les pays. L'Argentine, le Brésil.
Il reste au départ au Brésil. Il arrive sur la côte Donc nord-est, le Venezuela, les Guyanes, et puis après il descend. Brésil, il descend jusqu'au tout au sud, il traverse vers l'Argentine, Patagonie, puis après il remonte sur le Chili.
Ce sont des pays qui attirent, ça, l'Amérique latine, le Brésil, la Patagonie, tout ça, ce sont des pays qui attirent.
Après,
pas
c'est
mal.
Très intéressant, ce qui parle aussi justement de sa confrontation à la misère.
Et oui,
à travers tous ces pays.
Parce que l'Inde, voilà. C'est pareil, hein, genre c'est pas des pays.
Et il remet systématiquement aussi en avant le fait qu'il réalise sa condition de Français, notre condition d'Européen, cette facilité.
Qu'on a de la chance, voilà. Quoi, par rapport à d'autres pays.
Effectivement, et donc ça aussi, c'est il en tient compte dans son récit. C'est pas un récit à l'eau de rose, quoi. Mais c'est extrêmement intéressant. C'est vrai que ça donne envie, quoi.
Un œil objectif et réaliste et.
Objectif tant que faire se peut. Oui, ça reste subjectif, mais il essaie de donner un petit peu l'entièreté de ses perceptions, quoi. Il reste pas dans un récit à l'eau de rose, quoi.
Et pour passer d'un pays à l'autre, au niveau de tout ce qui est frontières, enfin,
il y a des moments où il prend l'avion.
Ah, d'accord, oui,
le bateau,
voilà.
Il est obligé.
Et il a jamais eu de problème au niveau, parce que c'est vrai qu'on entend souvent parler que des gens sont pris en otage dans certains pays. Lui, on peut dire qu'il a eu de la chance parce que
Il y a un moment où il parle quand même d'une, un petit problème de ce type-là. Je pense que c'est en Colombie. Si je me trompe
cartel.
Voilà. Et où effectivement il raconte, on se fait prendre en otage, enfin en tant que qu'étranger, comme on va à la toilette, quoi. Enfin, en gros, c'est ce qu'il raconte. Mais il explique aussi que ça fait partie du mode de vie entre guillemets là-bas. Je pense pas que ce soit à ce point-là, comme je disais, mais il explique que c'est effectivement tout à fait présent et que quand on arrive en tant qu'étranger là-bas, parce qu'il a des contacts, il passe aux alliances françaises, etc.
Oui, voilà, il est quand même pas dans la nature complètement.
Non, mais disons qu'il a des points de ralliement, quoi. Et effectivement, il parle donc de cette aventure qu'il a à un moment donné, mais qui se résout assez rapidement. Après, il n'a pas de problème particulier. Il a des problèmes à certaines frontières. Enfin, il y a quand même des moments de tension, c'est sûr. Mais
au final, c'est pas un voyage touristique organisé sans souci.
Non. Et puis surtout qu'il est tout seul aussi. Oui, à la limite, quand on est plusieurs, c'est encore différent. Mais c'est vrai que tout seul, il y a toujours ce risque du
De disparaître.
Il n'y a pas de trace, quoi.
Oui, voilà, de disparaître du jour au lendemain. Eh bien, on peut peut-être lire un passage, parce que c'est toujours pareil, le temps passe tellement vite, donc tu vas nous lire un passage, donc il se situe à quel niveau du livre, ce passage que tu as choisi?
Je préférerais lire effectivement le début, où il raconte un petit peu son départ, ce qui lui donne la piqûre, le pourquoi il décide de partir.
Voilà, est le déclic qu'il décide de s'embarquer dans cette aventure de 7 ans. Enfin, qui va durer 7 ans. Au début, c'est prévu 3 ans et demi. Et puis, c'est ça, 3 ans. Et puis finalement, ça dure 7 ans.
Ah, là, c'est même le déclic qu'il a avant de partir à travers l'Europe.
Donc,
c'est le premier déclic qui l'emmène sur les routes.
Tout à fait.
Donc il explique un petit peu que l'année de ses 30 ans constitue sans doute la période la plus déterminante de sa vie. En tant que fonctionnaire, mon avenir est déjà tout tracé. Je sais que dans une trentaine d'années, j'aurai ma retraite, sécurisant. Cela implique donc qu'au cours de cette même période, je vienne tous les jours dans mon bureau, à la même heure, accomplir les mêmes tâches. Cette idée m'angoisse. Nous sommes en 1993 et je suis capable d'établir à peu de choses près mon emploi du temps jusqu'en 2023. Effrayant.
C'est vrai que c'est effrayant.
Oui. Tous les matins, je pars travailler à contre-cœur. Amoureux de la nature et des grands espaces, je ne me sens pas à ma place, assis derrière un guichet. Néanmoins, un jour, tout bascule. Je fais fi de mes peurs et inquiétudes, écoutant enfin mon cœur qui bat sans doute plus fort que d'habitude et ses conseils bienveillants. Arrivant à mon bureau, avec encore moins d'entrain que d'habitude, je prends ma tête à deux mains, conscient qu'en poursuivant de la sorte, je n'aurai jamais rendez-vous avec le bonheur, mais bien au contraire. Avec la frustration et les regrets. Pour éviter une telle situation, il faut que je change de vie. Je ne veux en aucun cas dire un jour « Ah, si j'avais su !» phrase que l'on entend souvent et qui signifie que l'on est passé à côté de quelque chose. Oscar Wilde écrit « Vivre est ce qu'il y a de plus rare au monde. La plupart des gens existent, c'est tout. C'est décidé, à présent, je vais vivre. » Donc en gros, ça, c'est le moment où effectivement il a ce bug et qui décide de changer les choses. Il en peut plus de ce quotidien, de se rendre tous les matins à son travail. Et donc il dit, mais l'un d'entre eux semble plus correspondre à mes rêves et mes possibilités, en se posant la question de quel projet est-ce qu'il lance, un voyage en courant. Et donc là, on va dire, c'est le moment où il part sur les chemins européens, à travers les villes. Il trace donc son tracé des villes qu'il veut parcourir
en courant, donc voilà,
devant sa carte. Et donc là, il part le 31 juillet 1994. Il part pour ce périple d'un an et demi. Et puis il revient. Au terme de 16 mois et demi de course dans 32 pays d'Europe, je retrouve mon village. Tout est passé très vite, trop vite sans doute, et cela rend mon retour difficile. Je ne suis pas prêt à renouer avec un quotidien sédentaire, et les jours qui suivent sont un véritable cauchemar. Je pleure dans ma chambre en observant les murs perdus, sans plus aucun repère. Ma petite déprime va durer quelques semaines, au cours desquelles j'ai le sentiment d'être dans un univers étrange et inconnu. Mais petit à petit, l'espoir renaît, je recommence à déplier des cartes, avec une lueur dans le regard qui m'avait quitté depuis plusieurs semaines, de nouveaux horizons et de nouvelles rencontres m'attendent. Voilà, et donc là, il enclenche effectivement son idée de voyage à vélo. Hein.
Donc plus loin, plus longtemps, et donc avec un moyen de locomotion différent.
Voilà, et donc il explique qu'il a pas... Il a quand même parcouru en courant 18 260 km hein, sur cette année et demie.
C'est
pas rien.
Hein.
Et donc il organise son voyage pour repartir, ça lui prend quand même plusieurs mois, voire 2 ans je pense. Il arrive à obtenir quelques aides, mais c'est quand même peu, il part avec 4 000 € en poche pour ses 7 ans de voyage.
Oui, c'est pas énorme. Hein,
non, c'est pas du tout. Et donc, il avise aussi au fur et à mesure de son voyage. Hein. Il y a des moments où il travaille,
il fait des petites activités.
Tout à fait. Toujours est-il que donc là, il est sur le point de partir. Je suis aujourd'hui comme un enfant qui attend le Père Noël et ne parvient plus à contenir son excitation. Je veux partir à nouveau pour retrouver une liberté que seule la route peut me procurer. M'éclipser afin de rendre plus tolérables les contraintes quotidiennes que la société nous impose et à l'égard desquelles il me semble que je développe une allergie croissante. Le jour, la nuit, la faim et la fatigue vont dorénavant se substituer au tic-tac de mon réveil et au manque de poésie de mon calendrier. Ce 31 mars 97, jour de mon départ, vient comme un grand soulagement. Et voilà, là il part donc pour son périple de 7 ans. Et si vous voulez savoir la suite, eh ben il faudra lire le bouquin.
Donc on va rappeler le titre, Bénédicte. Alors c'est Cyclo Nomade,
voilà,
de Jacques Sira. Voilà. Aux éditions Durouergue, collection Aventure, et c'est vraiment effectivement un livre d'aventure avec des superbes photos de pays. On le voit également, est-ce qu'on le visualise dans ces photos?
Lui, beaucoup, oui.
Oui, aussi, on le voit avec son vélo.
Et puis son vélo, il fait quand même, je ne sais plus, hein, c'est entre 40 et 60 kilos.
Eh ben oui, parce que bon, en plus, il faut qu'il parte quand même avec quand même un minimum de choses, quoi, pour 7 ans. Quand même un sac, enfin quelque chose sur.
Oui, et puis le vélo, il faut quand même le réparer aussi au fur et à mesure du temps.
Il faut quand même que ça soit une bicyclette de bonne qualité, on va dire.
Je pense,
que ça tienne...
c'était combien? Vers la fin du bouquin, effectivement, il dit que... Parce qu'il a un compteur kilométrique qu'il enclenche quand il part. Et je ne sais plus si c'était autour de 40 000 km qu'il a parcouru ou plus encore.
En 7 ans?
Ah oui, c'est complètement fou, quoi. J'ai plus le chiffre
en tête. Et c'est avec le même vélo?
Eh ben, c'est avec le même vélo, mais avec des pièces rajoutées.
Oui, voilà, tout à fait. Bon, en fait, c'est le même vélo d'origine.
Mais à la fin, il explique que quand même, le vélo, il a vécu. Hein.
Bon, bah, il va peut-être le garder en souvenir, quoi, parce que bon, voilà. Un vélo comme ça, c'est presque un vélo magique.
On l'accroche au mur, on le garde, on le fait passer à ses petits-enfants.
Tout à fait. Bon, bah, moi, je trouve que c'est très bien qu'il y ait des gens qui savent encore prendre des décisions pareilles pour casser, pour ne pas regretter des choses, parce que bon, la phrase d'Oscar Wilde que tu as lu tout à l'heure, là, dans le livre, c'est magnifique. Moi, je trouve que c'est très bien qu'il y ait encore des gens qui aient le courage d'assouvir leur passion.
Malgré la peur que les médias mettent dans notre tête.
Oui, malgré plein de choses, mais surtout, je trouve que c'est bien d'aller au bout de ses rêves, d'aller au bout de ses passions, et vraiment, lisez ce livre, il vous fera rêver, peut-être, qui sait, vous faire repartir en voyage pour les voyageurs arrêtés, qui sait. Donc, merci Bénédicte d'être venue nous parler de ce magnifique livre. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine avec Hélène Deoda de la médiathèque José Cabanis, qui viendra nous parler de son métier de bibliothécaire et qui est au service des acquisitions pour les albums jeunesse, donc à la médiathèque. Donc, Adiciats, bonne semaine à tous et à jeudi prochain. Merci Bénédicte.
Adiciats à tous, merci aussi, au revoir.